Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise!
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Syllab. On est un peu en retard aujourd'hui, mais on est bien là. Pour une nouvelle émission, toujours avec la même passion, Romain est avec moi, bonjour.
Bonjour Louise, bonjour à tous. Dans un instant, dans le journal de la rédaction, on discutera avec deux membres de Roison Staps qui tiennent à informer sur leurs conditions d'études qu'ils jugent clairement insuffisantes.
Ensuite, vous retrouverez comme chaque jour le memento, votre agenda étudiant.
Et puis notre invité du jour sera Étienne Grandjean, grand maître d'œuvre du grand soufflet. On parlera bien sûr accordéon sous toutes ses formes.
On terminera par la nouvelle expo de la galerie ARAC de Rennes 2. Nous avons rencontré les artistes en avant-première avant le vernissage de demain à 18h.
C'est parti pour une heure d'inattendu.
Mais tout de suite, il est 18h passé de 2 minutes, c'est l'heure du journal.
Roison Staps et des étudiants de l'UFR Staps de Rennes se mobilisent pour défendre leurs conditions d'études. Si les Rennais ne sont pas les plus à plaindre sur cette question, ils sont tout de même solidaires et ils étaient aujourd'hui à nos micros.
Oui, évidemment, à Rennes, comme vous l'avez dit, on n'est pas la situation, même l'UFR le plus à plaindre. Cependant, il faut savoir que les conditions d'études, même si la majorité, voire la presque totalité des vœux 1 ont été acceptés, les conditions d'études dans lesquelles sont les étudiants à l'heure actuelle ne sont pas acceptables. Des gens en amphi se retrouvent assis par terre et c'est juste anormal en fait.
Il existe également des formations autres que STAPS, mais étant très coûteuses, les étudiants se tournent plutôt vers la filière universitaire, ce qui provoque sa saturation.
Du coup ici on fait référence au diplôme jeunesse et sport. En soi on ne critique pas le contenu de ces formations qui sont très bien, mais plutôt l'accessibilité à ces formations qui sont, comme vous l'avez dit, très onéreuses. Et c'est une des choses aussi qui font que les étudiants se retournent très vite vers la filière STAPS et qui fait qu'il y a une surdemande.
Les étudiants dénoncent également le manque de lisibilité des différentes formations sportives.
Alors en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des formations qui sont faites par exemple par les fédérations, ou d'ailleurs des formations jeunesse et sport, et qui sont des formations par exemple en un an, et qui, dans le milieu professionnel du sport, équivalent à un diplôme en 3 ans en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une très mauvaise articulation au niveau du champ du sport, et on souhaite qu'il y ait un travail fait conjointement entre le ministère des sports et le ministère de l'éducation, là-dessus, pour qu'il y ait une meilleure lisibilité pour le monde du travail en fait. Qu'il y ait une meilleure lisibilité pour les employeurs, à la sortie des diplômes, et faire aussi en sorte qu'il y ait des diplômes, que les ministères travaillent ensemble sur des diplômes moins onéreux et plus qualitatifs.
Un phénomène qui ne fera qu'accentuer ces difficultés, c'est l'attribution à la France des Jeux Olympiques.
Il va y avoir un phénomène où énormément de gens vont vouloir travailler dans le sport en fait. Il va falloir former ces professionnels au sport justement dans la vision des Jeux Olympiques. Et on se rend compte que même avant ça déjà, il y avait déjà pas assez de place en STAPS en fait par exemple. Du coup on redoute justement l'année prochaine en disant qu'il y a encore beaucoup plus de personnes qui vont vouloir s'insérer dans le milieu du sport pour travailler dedans, pour travailler dans cette occasion qu'est les Jeux Olympiques pour la France. Et on redoute vraiment cette rentrée 2018.
Les étudiants de STAPS se mobilisent donc et ils ne sont pas laissés à l'abandon par leurs professeurs dans leur lutte pour les conditions d'études.
Le corps enseignant à Rennes en tout cas, ils nous ont soutenus parce que c'est vrai que même pour eux les conditions ne sont pas forcément évidentes. Avoir des classes avec 40 élèves, c'est pas l'idéal pour enseigner. Et beaucoup font beaucoup parfois des heures sup non payées, donc du bénévolat. Parce que c'est important aussi de former les jeunes, ils n'ont pas le choix. Hein. C'est leur vocation, c'est de former. Ils le font, quoi, coûte que coûte, sauf que ça leur coûte beaucoup sur leur temps, sur leur énergie. La plupart sont des professeurs-chercheurs, donc ils ont moins le temps pour leur recherche aussi. Et c'est vrai que la situation, au final, tout le monde est vraiment fatigué par cette situation.
Roison Staps, n'hésitez pas à les suivre sur leur page, sur les réseaux sociaux, et nous vous en reparlerons également dans ce journal, dont c'est d'ailleurs la fin.
Passionné par les infos du campus, c'est votre moment, c'est le memento.
Memento. L'actu campus.
Je
Jusqu'au 20 octobre, découvrez les travaux des étudiants de l'ESSAB Rennes réalisés sur un bateau dans le cadre du projet BOAT. Et qui de mieux que la commissaire de l'exposition et la coordinatrice du projet pour en parler?
C'est un chalutier qui est vraiment particulier, il nous a plu. On a réussi à en faire l'acquisition depuis 2 ans. Alors après, il y a eu toute une historique, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, enfin il y a 2 ans, les étudiants avec les enseignants, notamment de Rennes et de Brest en design, ont tout transformé, on fait des travaux de réhabilitation, littéralement de transformation du chalutier. Par exemple, la cale à poisson est devenue le dortoir. Donc il y a 12 couchettes, là où il y avait des casiers, des filets et tout autant de poissons. Donc maintenant, si vous allez sur le bateau, vous allez voir que c'est un bateau atypique, hors du commun, parce qu'on peut être à 12 dessus, y dormir, y manger, vivre ensemble et y travailler, concevoir des projets artistiques.
L'exposition commence quasiment dans la rue, puisqu'on découvre une grande photo de Claire Guetta. Et puis on rentre dans l'école où là, toute l'exposition, quasiment toute l'exposition est dans le cloître et plus de petites salles, les loges, où on va voir des photos, des vidéos, des installations. Dans une des petites salles, justement, il y a un documentaire qui a été réalisé par Pierre-François Lebrun à bord du boat. Donc c'est une vidéo, un documentaire qui dure à peu près une demi-heure. Donc voilà, on va pouvoir avoir un aperçu de la vie, du travail et du mouvement du bateau. Et ensuite, on peut trouver dans la bibliothèque, il y a des vidéos, sculptures, des éditions du journal du Boat, les éditions de Morvandio, sur une édition qui s'appelle Le Caillou, et des objets design qui ont été réalisés par Marine Leroux, qui est designeuse, et voilà, qui sont des objets beaucoup liés à la nourriture de mer.
À l'ESSAB, toujours, l'exposition Haute en couleur et en humour, She Paints with Chili Sauce, vient clôturer le cursus des nouveaux diplômés en art, communication et design. L'occasion de découvrir la diversité de leurs propositions et de pouvoir les suivre dans leurs futures aventures professionnelles. Organisée par les diplômés en master de l'ESSAB et de MAE de l'Université Rennes 2, elle aura lieu jusqu'au 30 septembre à l'Hôtel Pasteur.
Comme tous les mardis à l'Université Rennes 2, la BU accueille des auteurs des presses universitaires de Rennes dans le cadre des Purs Cafés. Cette semaine, c'est au tour de Pierre-Henri Frangne et Patricia Limido, tous deux professeurs en esthétique et philosophie de l'art à Rennes 2. Ils viennent discuter de leur publication, Les inventions photographiques du paysage, avec Hervé Regnault, professeur de géographie, et avec bien entendu tous ceux qui le souhaitent. Ça se passe mardi à 12h45 et la rencontre sera rediffusée dès jeudi sur Syllab à 16h.
Mardi 26 septembre à 20h15, Cinémaniacs fait sa rentrée avec le mythique film d'Alan Parker, The Wall, où la musique de Pink Floyd est à l'honneur, un chef-d'œuvre à découvrir au diapason, au tarif très attractif de 5 euros les 11 films, comprenant l'adhésion à Cinémaniacs.
Mercredi théâtre, puisque Sonia Rostagni vient jouer 649 € sur les planches du diapason à 20h30. La pièce raconte le quotidien d'une femme atteinte d'un cancer du sein et questionne notamment les tabous qui existent autour de cette maladie. Et ce n'est pas parce que le monologue de la comédienne aborde un sujet difficile que l'humour ne sera pas au rendez-vous.
Mercredi également, l'association Ciné-Tambour propose une soirée autour de la relation parent-enfant. À 18h, le film japonais de Naomi Kawase sublime l'acte de donner la vie et rappelle l'étroite relation de l'homme à la nature, tout en évoquant la condition féminine actuelle au Japon. À 20h30, Toril de Laurent Tessier, l'histoire d'un fils prêt à tout pour aider son père, paysan endetté. Le réalisateur, Laurent Tessier et Fred Prémel, producteurs, seront présents. Rendez-vous donc ce mercredi au Tambour sur le campus de Villejean.
Jeudi, vernissage de 2 expositions à la galerie Art et Essai à Rennes 2 à partir de 18h. Tout d'abord, Laurent Tixador vous propose de venir découvrir son projet expérimental et collaboratif dans lequel les idées de vivre ensemble, de recyclage, de moyens de production et d'architecture précaire sont développées. Le projet, conçu avec des matériaux de récupération, a pris la forme d'un workshop, donnant donc naissance à une collaboration entre artistes et étudiants. La galerie accueille également l'artiste Francis Reynaud. Dans le cadre de cette Project Room, il a imaginé une famille d'objets improbables, mariant des éléments hétérogènes, instables et informes. Si vous ne pouvez pas assister au vernissage jeudi, n'ayez crainte, vous avez jusqu'au 10 novembre pour venir jeter un œil à ces travaux à la galerie Art et Essai.
Vendredi à 18h, le cabinet du livre d'artistes à Rennes 2 questionne reproduction, authenticité et diffusion d'une œuvre d'art à travers le vernissage de l'exposition de Saadane Afif. Exposition qui durera jusqu'au 25 novembre. L'artiste a collecté depuis 2008 plus de 850 reproductions de l'œuvre devenue célèbre de Marcel Duchamp, L'Urinoir. L'occasion de célébrer les 100 ans de cette œuvre emblématique. Pour approfondir le sujet, une journée d'études intitulée « Fontaine, un siècle d'appropriation » a également été mise en place ce vendredi. Les participants sont invités à se rendre en salle E423, à Rennes 2, à 10h.
Memento.
L'Actu Campus.
Dans un instant, on reçoit Étienne Grandjean du festival Le Grand Soufflé et on se met tout de suite dans l'ambiance avec Pacha Disco Club.
Ils sont accompagnés ce soir pour votre plus grand plaisir par les musiciens, membres fondateurs d'un des plus grands orchestres de tous les temps, dignes représentants de cette mouvance musicale tombée dans l'oubli, qui aujourd'hui, tel un phénix rené de ses cendres, je nomme la
Disco Propaganda.
And
C'était Pacha Disco Club, vous avez reconnu l'accordéon, c'est le Grand Soufflet et c'est Romain qui va cuisiner notre invité.
Et oui, chaque année, le Grand Soufflet choisit un thème. Cette fois, vous avez décidé de mettre en avant le bal, mais le bal du monde, car il nous parle de danse, de convivialité, de plaisir. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Et justement, ma première question portera sur peut-être cet aspect-là, ce thème, c'est la convivialité, la dimension intergénérationnelle qui vous a donné envie de mettre le bal en avant cette année ?
Oui, puis c'est aussi le rapport de l'accordéon avec, avec le bal qui est, et la musique à danser en général qui est indissociable. Ça fait partie de l'histoire du bal, l'accordéon, même si le bal populaire et la naissance de l'accordéon correspondent un petit peu, c'est le début du 19e siècle, enfin 1829 pour l'accordéon, à peu près pareil pour le bal populaire. Donc voilà, c'est un lien. Et puis aussi, l'idée, c'était d'enlever un peu cette marque du genre musette qu'on approprie au bal. L'idée, c'est quand même de démontrer que le bal et l'accordéon fait danser au niveau planétaire dans bien d'autres genres.
Comment est-ce que vous expliquez justement peut-être ce retour de l'envie de bal ? Il y a une dimension phénomène de société ?
C'est vrai, ouais, je pense que c'est ça. Les gens ont plus envie de se parler, de partager des choses ensemble en buvant un verre, sans se prendre la tête. Les gens ont besoin un peu d'échappatoire sans doute et de se lâcher un peu. De convivialité aussi. On est quand même à l'époque des réseaux sociaux, du numérique, etc. Et puis le bal, c'est un peu l'inverse. Hein.
Du 4 au 14 octobre, il y aura vraiment de quoi faire avec des propositions très différentes, des choses très connues, des retours aussi et des grands anniversaires. Vraiment énormément de propositions, vous y êtes habitué maintenant. Vous serez toujours bien sûr à votre quartier général au Parc du Thabor, mais également avec une grosse implication sur le reste du territoire. C'est important aussi ça, de dessemer un petit peu partout.
Oui, c'est une de nos missions, on va dire, depuis le début du festival. En 1996, il y avait une douzaine de lieux. Aujourd'hui, on est à une quarantaine de lieux pour 35 communes à peu près. Disséminés du nord au sud du département.
Alors ça, niveau organisation, ça implique quoi comme difficulté ?
Alors, chaque lieu est autonome quasiment. C'est-à-dire que quand il y a des spectacles au centre culturel de Vitré ou de Fougères, c'est vraiment l'équipe de ce lieu-là qui le gère. Donc déjà, ça fait des équipes dans chaque lieu. Et puis, sur un aspect de la communication globale, ben, effectivement, c'est nous qui gérons un peu tout ça.
Ça donne une jolie carte, en tout cas, qu'on retrouve dans le programme du Grand Soufflet, le Bal du Monde, puisque là, ça va être vraiment 10 jours de festivités. Et vous allez ouvrir notamment, et ça va rappeler peut-être leurs grandes heures de jeunesse à certains, avec Debout sur le Zinc, un morceau que j'ai moi-même beaucoup écouté il y a une dizaine d'années de ça. Comment est venu ce choix de les faire venir, Debout sur le Zinc ?
Ça fait longtemps qu'ils frappent à la porte du Grand Soufflet, parce qu'il y en avait quelques-uns qui habitaient dans la région rennaise à un moment donné. Voilà, et c'est l'occasion qu'ils fêtent le larron, ils fêtent leurs 20 ans de scène, donc d'existence, et voilà, on va fêter ça avec eux.
Parmi tous ces artistes, il y a aussi une volonté de découverte, de défrichage. Comment est-ce que vous vous y prenez, vous ? Est-ce qu'il y a des petites pépites cette année particulière ?
Il y a toujours... Le festival, je dirais aux deux tiers, est un festival de découverte. Hein. C'est pour la plupart des gens qui n'ont jamais joué dans la région. Donc, c'est vrai qu'on demande au public d'être curieux. Cette année, moi, je dirais, ce qu'il faut aller découvrir, c'est par exemple le chanteur Sang, qui est un jeune chanteur qui utilise l'accordéon, mais avec des effets électroniques, puis qui a une écriture qui peut rappeler Dominique A un peu. Enfin bon, c'est plutôt très original. Voilà, moi j'ai un coup de cœur aussi, c'est avec le groupe All Savannah qui viennent de Montréal. C'est la première fois qu'ils traversent l'Atlantique. Donc là, c'est plutôt blues du Mississippi, avec des petites influences des Appalaches et tout ça. Bon, on va dire que ça vient un peu tout azimut, et il n'y a pas que du bal non plus, il y a la thématique, mais il y a aussi des concerts assis et puis des choses qui sortent du domaine de la musique à danser.
Pour les grandes soirées au Thabor, vous avez décidé de fonctionner un petit peu par thématique, la joie soirée polonaise, île de la Réunion, le bal antillais ou même le grand soir pour danser. Comment est-ce que justement vous les réunissez ? Pourquoi avoir voulu travailler par thématique plutôt que par de la diversité ?
Ce que je disais, c'est que je voulais montrer qu'il existait d'autres formes que le bal populaire bien frenchy, même s'il y aura Barbatruc qui représentera cette étiquette-là, on va dire, avec des propositions bien franchouillardes, des morceaux de variété des années 70, 80 et tout ça. Il y a aussi, par exemple, un bal antillais, voilà, pour représenter aussi ce qui se passe là-bas. Il y a des représentants de l'île de la Réunion, donc il y aura une grande soirée Maloya avec Pachi Baba, qui est un fameux projet autour de Fixie. Voilà, c'est un panel de choses. Il y a un bal pour les enfants, il y a un fest-noz, parce que forcément, c'est difficile de passer à côté en Bretagne. Donc voilà, je voulais montrer un peu dans différents pays ce qui pouvait se passer en termes de fêtes, musique festive et dansante.
Effectivement, la diversité est là, avec notamment aussi du punkabilly avec les Washington Dead Cats. Moi, j'irai absolument voir ça. Ce sera le vendredi 13 à l'étage. Puis également, sous le chapiteau du Tabor, le samedi 7, le plaisir de réaccueillir un artiste qui était venu il y a plus de 10 ans maintenant, Balbino Medellin, avec le très très grand accordéoniste aussi, René Michel, avec lui. Justement, ça fait plaisir de faire revenir des artistes après, quand ils sont sur de nouveaux projets comme ça.
Oui, tout à fait. Oui. On parlait de Pachi Baba avec Fixie. C'est la troisième fois qu'il était venu avec Macaneuf et puis aussi sur un autre projet avec l'Indigo, etc. Oui, il y a forcément des liens qui se tissent avec certains artistes et qu'on suit. Alors, on ne les fait pas venir tous les ans ni tous les 2-3 ans, on laisse quand même quelques espaces, mais bien sûr que... Mais pour eux, c'est aussi important parce que le Grand Soufflet fait un petit peu partie, enfin certains l'expriment comme ça, d'un passage dans leur projet. C'est un lieu, un événement repéré. Ils aiment bien venir présenter leur nouveau projet dans ce festival.
Vous n'oubliez pas, bien entendu, les jeunes populations qui, quoique pouvant s'intéresser même au bal musette, ce n'est pas interdit, et j'en connais d'ailleurs beaucoup, et je les salue au passage. Il y a une soirée particulière, notamment un groupe qui est, on peut dire, particulièrement à destination des jeunes, un certain type de monstre, il me semble, vous pouvez nous en dire plus.
Allez, Maxi Monster Music Show. Alors, ça fait partie d'une soirée, effectivement, qu'il ne faut pas louper. C'est le vendredi 13, donc c'est Halloween avant l'heure. Et il y a toute une soirée qu'on a construite autour de ça, qu'on a appelée Freaks Burlesque et Rock'n'Roll. Donc, c'est là où il y aura les Washington Dead Cats, d'ailleurs, qui inviteront pour l'occasion un harmoniciste. Le Maxi Monster Music Show, qui était déjà venu en 2009, je crois, présente un espèce de cabaret rétro avec donc c'est une chanteuse, une femme à barbe. Il y a des phénomènes de foire comme ça qui apparaissent dans le spectacle. C'est de la chanson réaliste et puis des performeuses et performeurs burlesques. Donc toujours sur le thème freaks et phénomènes quoi. Donc ça va être une belle soirée à l'étage le vendredi 13.
Croyez-vous, messieurs, dames, que le monde est joli? Vous avez ressenti nos cœurs dans vos entrailles. Mais serez-vous présents lors de nos funérailles?
Monster, monster,
du champagne et des fleurs.
Monster, monster,
du vaudou, de la chaleur.
Monster, 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 monster,
des couteaux de la sueur.
Monster, monster,
what the galaxy, my friend.
Monster, monster,
chantons en chœur. Assis là dans la nuit, sous les étoiles filantes, vous avez vu valser des amours dilettantes. Vous avez près du feu écouté la guitare chanter sous la brume au chevet de la lune. La chaleur et la sueur des monstres en fête. Vous avez vu des corps mais tout doit disparaître.
Monster, monster,
les artistes, les rêveurs.
Monster, monster,
les migrants, les chômeurs.
Monster,
les pauvres et les bossus.
Monster, monster,
les athées, les tordus. Mesdames et messieurs, ce soir, devant vos yeux, tout doit disparaître.
Maxi Monster Music Show avec le morceau Monster, Monster, vous l'avez reconnu. Washington Dead Cats également seront là pour le vendredi 13 avec cette belle soirée à l'étage. Et puis également, si on veut parler de la couleur syllabe, un peu si vous êtes habitué à des choses de qualité comme ça, et notamment la musique disco distillée par Thomas, on peut parler de la soirée Pacha Disco Club qui se déroulera sous le chapiteau du Tabor le samedi 7, où ils joueront à 22h. Alors on connaissait les Soviets suprêmes qui faisaient leur invasion communiste, notamment, bon, on parlait de Fixie tout à l'heure, donc avec un ancien chanteur de Java notamment. Cette fois non, c'est la Disco Propaganda, la conquête de l'Est par la musique disco. Ça, ça va beaucoup plaire à Thomas. Vous avez, à quoi ça ressemble, cette espèce d'énorme truc très festif?
Ça ressemble à... D'abord, c'est donc interprété par un collectif qui vit en Rhône-Alpes, qui s'appelle Les Barbarins Fourchus, qu'on connaît pour pas mal de spectacles comme ça, un peu rigolo. C'est une espèce de cabaret aussi, avec des personnages. Ça raconte un peu l'histoire justement de cette propagande disco là, qui a envahi les pays de l'Est. Alors ils passent de morceaux coréens à des morceaux biélorusses. Enfin bon, c'est assez assez original. Et puis c'est du disco, donc je pense que tout le monde va bien s'amuser. C'est très décalé, hein.
Pour danser, c'est absolument parfait. C'est le morceau qu'on a écouté en tout début de cette émission, puis on aura l'occasion d'en vous refaire découvrir sur Syllab. Au niveau de tous les morceaux qu'on écoute, c'est sur la compile que vous avez proposée, et qu'on écoutera d'ailleurs très régulièrement, avec de très nombreux titres, presque une vingtaine, il me semble, 19 pour être précis. À quoi ça sert, une compile comme ça, qu'on vous fera d'ailleurs gagner, chers auditeurs, très prochainement?
Ah ben ça sert à, elle n'est pas à vendre du tout, hein, ça sert à promouvoir le contenu du festival, donc on l'envoie à tous les médias, les journalistes, etc. Et puis on en offre aux bénévoles, on en offre sur certains jeux, etc. Mais ce n'est pas du tout en vente, ça c'est vraiment un outil de promotion.
Donc vous pourrez vous les approprier en écoutant Syllab grâce au Grand Soufflet, et ça on les en remercie beaucoup.
Ceci dit, sur le site internet du festival, grandsoufflet.fr, il y a tous les titres de la compile, bien entendu, qu'on peut écouter.
Pour pouvoir découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Grand Soufflet, bien entendu. Et puis autour du Grand Soufflet, en tout cas autour du concert et de ses balles, vous organisez également des conférences, des projections, énormément de choses également à découvrir au sein de ce site internet, des expositions dans des bibliothèques un petit peu partout. Pourquoi est-ce que c'est important, au-delà d'un festival, d'égrener aussi comme ça d'autres propositions?
Parce qu'aujourd'hui, un festival se doit de proposer plus que des concerts ou des spectacles. C'est-à-dire qu'il faut aussi atteindre des populations et des publics qui n'ont pas forcément accès aux spectacles pour un tas de raisons. D'abord parce qu'ils sont éloignés, ou alors parce qu'ils ont des ressources insuffisantes. Et on a un tas d'actions culturelles. Il y a une série de petits courts-métrages qui tournent sur la thématique, hein, qui tourne dans les médiathèques. Il y a des initiations à la danse, il y a effectivement tout un tas de choses. Il faut noter aussi qu'il y a quand même quelques propositions gratuites, hein. Le village du Tabor, par exemple, on peut y accéder sans payer de place pour le concert, et il y a des concerts gratuits pendant le festival. On peut profiter de cet événement sans avoir énormément de moyens, on va dire.
Et ça tombe très bien, puisque effectivement nos chers étudiants en font partie parfois, de ce genre de personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens mais beaucoup de curiosité. Et une des choses assez curieuses, c'est par exemple au village Tabor de pouvoir découvrir l'intérieur et le fonctionnement d'un piano à bretelles, avec un atelier. Le piano à bretelles, c'est bien entendu un accordéon, vous l'aurez compris. Un stand de présentation, de démonstration, c'est intéressant aussi de pouvoir voir de plus près cet instrument-là.
Ben, les gens découvrent le système de l'accordéon. C'est un système très ancien qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'anche libre. L'ancêtre le plus lointain de l'accordéon vient de Chine, enfin des pays asiatiques. C'est tous les, d'abord la guimbarde, par exemple, on n'imagine pas, mais tous les orgues à bouche, etc. C'est ce système-là qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, même si l'accordéon a été inventé donc en 1829. Et puis c'est aussi pour... Il y a beaucoup de gens qui ont un accordéon aussi, et puis qui... qui ont besoin de conseils des fois pour ne serait-ce que des petites réparations ou des voilà, donc c'est là pour ça quoi.
Toujours la convivialité de l'accordéon, cet objet qui n'est pas sans susciter énormément de belles choses. Merci beaucoup Étienne
Grandjean d'être
venu avec nous. Je vous rappelle que c'est du 4 au 14 octobre avec plein de propositions. Pour tout ça, je vous renvoie vers le site internet et puis vers les quotidiennes de Syllab où on essaiera pendant tout ce moment-là de vous rappeler les beaux événements qui ont lieu. On quitte ce moment sur le grand soufflet avec Cumbia Boruca et le morceau El Grito.
De fe y de vida se siente el calor, la pura vibra. Porque se oye el sufrir de mi gente, todavía el dolor de los pueblos. Se oye el grito antes de la muerte. Y nada cambia, no, nada cambia. Y nada cambia, no, nada cambia.
Dale Boruca, ¡vale!
Le festival du Grand Soufflet se déroule, je vous le rappelle, du 4 au 14 octobre. Restez connectés sur le site de Syllab, on vous fera gagner des places.
Vous avez de la musique là ?
Syllab,
la radio sauvage.
Et oui, on termine cette émission avec un beau sujet réalisé par Julie qui nous manque déjà. Elle s'est rendue au montage de la nouvelle exposition de la galerie Art et Essai.
Laurent Tixador et Francis Reynaud étaient à nos micros avant le vernissage de demain à 18h, l'occasion d'en savoir plus sur leur démarche créative.
Ici, là, je ne sais pas si tu vois, tu as une espèce de grosse bouteille avec des câblages électriques, tout ça. Donc ça, c'est une pièce que je viens de faire, que j'ai faite en juin. C'est une multiprise qui est fonctionnelle, qui a été faite mais à 100% jusqu'à la moindre particule avec des saloperies que j'ai ramassées sur la plage. Donc il y a énormément de déchets plastiques, donc tu vois que ça fait dans une bouteille. L'isolation des câbles, elle est faite avec des capsules. Toutes les connexions, c'est fait avec des balles de la guerre de 14 parce que j'avais trouvé un ancien terrain militaire pas loin de la mer, où il y avait une butte où on fait du tir, où on faisait du tir. Cette multiprise, donc, elle est branchée, elle alimente un vidéoprojecteur et un player qui vont projeter le film de sa fabrication et puis de quelques petites remarques en fait, sur l'environnement dans lequel je suis, quoi, enfin dans lequel j'étais.
Laurent Tixador et Francis Reynaud présentent Trasher et Ether du 28 septembre au 10 novembre 2017 à la galerie Art et Essai de l'Université Rennes 2.
Bah ouais, déjà la relation à l'exposition, elle est intéressante parce que c'est pas une pratique que j'ai couramment. Puis effectivement, enfin avec tous les gens qui sont ici, là tout ça, c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, enfin bon, je sais pas, il y a des échanges, plein de questions comme ça, quoi. Tu vois, sur les pièces, sur la façon de les faire et sur la façon de les installer.
Vous avez été en collaboration, Laurent, vous, avec les étudiants pour c'était sous la forme d'un workshop, ce projet.
Je ne sais pas si c'est vraiment un workshop, mais en tout cas, bon, on est là tous, on bricole des trucs et tout ça, quoi. Tu vois, c'est, enfin, l'appellation workshop est un peu officielle. Enfin, voilà, quoi. Tu vois,
le titre de votre projet Trasher, c'est assez évocateur, hein. On pense aux déchets, à la pollution, ou plutôt à la notion de dépollution. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de dépollution ?
Toute cette expo, elle est faite 100% avec des ordures. Alors très, très couramment, j'ai l'habitude de travailler avec des matériaux que je recycle. Économiquement, je n'achète jamais rien en fait, pour produire une œuvre. Et ça, pour moi, c'est assez essentiel. Et ici, j'ai fait une sélection de pièces. En fait, bah, c'est une espèce de récurrence en fait, depuis quelques temps, d'utiliser plutôt que des matériaux recyclés, comme du bois, des choses qui peuvent servir à autre chose, d'utiliser des matériaux qui sont polluants ou qui ne sont pas à leur place exacte, quoi. Ouais. Et l'écologie, c'est un peu ça aussi, c'est laisser les choses à leur place et surtout aussi remettre un petit peu les choses qui sont déplacées dans un autre endroit, quoi. Ouais. La relation à la poubelle, enfin un trasher, quoi, c'est vraiment ça. En fait, c'est une expo qui n'est juste qu'une poubelle, quoi. Ouais.
Et justement, lorsqu'on s'intéresse à votre parcours, Laurent, on comprend vite que vous portez un grand intérêt à lier l'art et les questions écologiques, environnementales. Vous avez notamment été le lauréat du prix COAL, Art et Environnement 2013. De quoi est née cette sensibilisation pour les enjeux environnementaux et la volonté d'utiliser l'art pour développer cette sensibilisation-là ? Comment est-ce qu'on mêle les deux, finalement ?
Bah, on mêle les deux. En fait, quand on est artiste, on peut avoir le métier qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut être architecte, on peut être boulanger, on peut être charcutier, peintre ou n'importe quoi d'autre. Et voilà. Et en fait, ma sensibilité, elle va justement sur ces problèmes environnementaux et tout ça. Ça vient naturellement, en fait, aussi naturellement que je fais un travail d'artiste. Bon, moi, je fais un travail aussi qui est lié à l'écologie. Et voilà. En fait, c'est pas une décision. En fait, c'est voilà. Je fais comme ça, quoi. Tu vois. C'est tout.
C'est peut-être ça, si, le lien, puisque dans l'exposition, il y a quelques pièces qui sont soclées avec des matériaux de récupération, que je trouve en allant à l'atelier aussi. Donc c'est quelque part des résidus d'autres choses qui deviennent œuvres d'art. Moi, mon travail, en fait, c'est d'essayer de retranscrire par la sculpture une pensée d'atelier, donc avec des références philosophiques ou poétiques. C'est plus l'expo, c'est plus un état des lieux de ce que je fais en ce moment. Du coup, là, j'exploite les deux salles qui sont assez différentes. Par rhétorique, je pense que l'idée de l'une va rebondir dans l'autre. Après, je vous laisse.
Et dans cette Project Room, vous mariez d'improbables objets, des éléments aussi hétérogènes qu'instable et informe. Comment vous avez choisi d'associer un objet, une forme avec un autre ?
C'est un peu un jeu de ricochet. Par les mots, comme ça, il y a une sculpture avec des massues de jonglage inspirées du jeu de cartes italien, mais qui ressemble aussi à des quilles. Et quilles, c'est aussi on peut appeler une bouteille de vin une quille. Du coup, toutes les pièces comme ça peuvent rebondir par le sens et par l'évocation de la forme.
Laurent Tixador et Francis Reynaud présentent Trasher et Ether du 28 septembre au 10 novembre 2017 à la galerie Art et Essai de l'Université Rennes 2.
On vous rappelle donc que Thrasher et Ether sont à découvrir dès demain à 18h à la galerie Art et Essai de Rennes 2, mais aussi jusqu'au 10 novembre.
Merci à Julie pour cette très belle proposition.
Demain, c'est Si Live, en direct à la radio et sur Facebook, 1h30 de live et d'interview avec l'artiste Lonsai Maikoff.
Ouais, et ça va déchirer, j'ai trop hâte. Mais d'ici là, vous restez sur Si Lab et dans quelques instants, vous retrouvez votre émission littéraire.
J'irai cracher sur vos ondes de 19h à 20h. Martin est avec nous, veux-tu bien nous mettre l'eau à la bouche ?
Oui, je veux bien vous mettre l'eau à la bouche. Nous allons essayer d'apprivoiser King Kong ce soir. C'est pas mal déjà.
C'est déjà pas mal.
Et puis on va parler de nos états d'âme d'automne. Pas mal aussi, non ?
Si.
Et puis en plus on va accueillir deux libraires aujourd'hui pour nous parler de leur métier.
Mais quel programme incroyable, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Merci Martin, merci à Aurélien à la technique, merci à vous auditeurs de nous avoir suivis et à demain.